RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, comme d'habitude, nous allons présenter quelques programmes et nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire aujourd'hui et modernisée. Lors de Busy World, vous allez écouter magazine culturel et avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'Indonésie encourage l'amélioration de la coopération mondiale pour faire face aux défis mondiaux. Le Forum géopolitique de Jakarta produire une percée géopolitique pour l'avenir. Yogyakarta est désignée comme une ville de culture d'ASEAN. L'Indonésie et l'Allemagne ont accepté de développer un programme de partenariat professionnel. Les acheteurs louent la qualité des produits indonésiens à TEI 2018. Et enfin, l'ambassadeur a dit « Le discours d'Osman Sabta Odang en Russie est un événement rare ». Voici le journal complet. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, encourage la création d'une coopération mondiale entre les pays du monde face à l'incertitude des changements géopolitiques dans le monde. Elle a déclaré cela lors de l'ouverture du Forum géopolitique de Jakarta, mercredi à Jakarta. Retno Marsudi a déclaré à cette occasion que le gouvernement indonésien croyait l'importance de la coopération par rapport au conflit entre les pays. Certains des défis mondiaux auxquels tous les pays sont actuellement confrontés, entre autres, renaissance de la Chine et l'impact de la guerre commerciale avec les États-Unis et l'Union européenne après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Selon Mme Retno, face à ces défis, tous les pays du monde n'ont d'autre choix que de collaborer entre eux.
And facing all this, we have no other alternatives.
Pour faire face à tout cela, nous n'avons pas d'autre alternative que de collaborer plus étroitement. Encore une fois, il n'y a pas de meilleure option que la coopération entre les nations. Notre principe géostratégique pour l'avenir ne peut pas être sous la forme sécurisée de, mais sécurisée avec. Non plus prospérer sur, mais prospérer avec. Et avec une bonne coopération, en renforçant le leadership mondial, je suis sûr que notre espoir pour l'avenir en monde meilleur restera pertinent. Retno Marsudi a dit que l'Indonésie, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, avait contribué à encourager la création de la culture de dialogue entre les États membres des Nations Unies et les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Indonésie encourage également les efforts visant à renforcer la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales. Dans le cadre de la coopération Indo-Pacifique, l'Indonésie offre également une coopération ouverte, transparente et inclusive qui respecte le droit international. selon Mme Khatoum Marsoudi, pour lutter contre le protectionnisme dans le mouvement de l'économie mondiale, l'Indonésie encourage la création d'une ouverture, d'une justice et d'une coopération économique mutuellement bénéfique entre les pays du monde. L'Indonésie continue d'intensifier les négociations sur divers accords commerciaux avec des pays partenaires et de nouveaux marchés, y compris l'Afrique. Le gouverneur de l'Institut national de la résilience, Ulemhanas, Agus Wijoyo, a déclaré mercredi à Jakarta que le forum géopolitique de Jakarta pourra encourager les efforts visant à renforcer la résilience géopolitique dans toutes les régions du monde. Le thème du forum est cartographier l'avenir de la géopolitique. On souhaite que le forum puisse créer de nouvelles percées pour former l'équilibre d'intérêts entre les pays du monde entier. Agus Wijoyo a également déclaré que dans le but d'encourager le développement géopolitique mondial et régional, le forum qui a été tenu pour la deuxième fois devrait également pouvoir influer sur l'évolution de la gouvernance.
While the purpose and objective of this forum is to provide
Les objectifs de ce forum sont de fournir une description des développements géopolitiques mondiaux et régionaux, l'impact et l'influence sur les changements dans le droit ou la perturbation du nouveau monde. Espérons que les résultats de cette discussion pourront avoir un impact sur nos espoirs de construire un monde meilleur en renforçant la résilience géopolitique dans toutes les régions du monde, non seulement pour résoudre des questions critiques, mais également pour former un nouveau monde en établissant un équilibre des intérêts et non un équilibre de force. Le Forum géopolitique de Jakarta est organisé par l'Institut national de la résilience de la République d'Indonésie. Il a été participé par environ 400 experts géopolitiques de l'intérieur et de l'étranger, y compris des universitaires, des praticiens, des bureaucrates, des entrepreneurs et des politiciens. Le Forum géopolitique de Jakarta est officiellement ouvert par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno LP Marsudi. La région spéciale de Jakarta est désignée comme une ville culturelle de l'ASEAN. La décision a été prise mercredi le 24 octobre au théâtre en plein air du temple de Prambanan à Yogyakarta. Cette détermination est conforme à celle de Yogyakarta en tant qu'hôte de la 8e réunion des ministres chargés de la culture de l'ASEAN et de la 14e réunion de hauts fonctionnaires de l'ASEAN sur la culture de l'ASEAN qui se déroule du 21 au 26 octobre 2018. La détermination de la ville culturelle de l'ASEAN est un programme conjoint du ministère de la Culture des pays de l'ASEAN et la détermination de la ville change tous les deux ans. Hilmar Farid, le directeur général de la culture du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie, lors de la conférence de presse mercredi le 24 octobre, a déclaré que Yogyakarta était la ville culturelle de l'ASEAN en 2018-2020. Selon lui, Yogyakarta était choisi parce que cette ville a intégré la prévention de la culture.
Yogyakarta, di dalam pertemuan juga dengan Pak Gubernur, ya.
Yogyakarta, lors d'une réunion avec le gouverneur, ses activités doivent faire l'objet d'une culture de prévention. Elle doit être développée. Et concernant cette question, Jogja a déjà avancé. La culture de prévention, comment prévenir les mauvaises choses telles que les catastrophes naturelles. Les activités sur la culture de prévention seront renforcées. Selon Hilmar Farid, auparavant, la ville de la culture de l'ASEAN était Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Yogyakarta est la cinquième ville choisie comme ville de la culture. Lors de la réunion, les délégués ont salué la détermination. Pour marquer cette destination, Yogyakarta a organisé le Festival d'Art de l'ASEAN mercredi le 24 octobre 2018, participé par les artistes des pays de l'ASEAN et trois de ses partenaires de dialogue. Ce festival est l'exemple de la façon dont l'ASEAN célèbre la diversité culturelle, utilise la culture pour exposer ses traditions et son patrimoine, et établit une amitié durable entre les pays de l'ASEAN et leurs partenaires de dialogue. Le ministère de la coordination des affaires économiques a signé un protocole d'accord avec la Chambre allemande de commerce et d'industrie à Trier, au IHK Trier, sur un programme de partenariat en matière de formation professionnelle visant à accroître la capacité des ressources humaines comme partie d'une politique d'égalité économique. Rudy Salahuddin, député chargé de la coordination de l'économie créative, de l'entrepreneuriat et de la compétitivité des coopératives, des petites et moyennes entreprises du ministre de la coordination des affaires économiques, a déclaré mercredi à Jakarta que le programme visait à former des formateurs sur le lieu de travail. Le protocole d'accord du programme de partenariat professionnel a été signé par Rudy et le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie d'Allemagne, Jan Grokauer. Le programme de partenariat fait partie de la coopération technique bilatérale entre les gouvernements indonésiens et allemands, financé par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Rudy expliquait que le centre de Java et l'est de Java avaient été choisis comme lieu de la mise en œuvre du programme, compte tenu le nombre de moyennes à supérieures industries qui peut accepter des stagiaires dans deux régions est assez grand. Les acheteurs étrangers ayant assisté à l'exposition internationale du commerce TEI 2018 ont loué les produits nationaux considérés comme très susceptibles d'être commercialisés dans leur pays. L'acheteur mexicain Angelisa Quinones Silva, par exemple, a loué la qualité des produits de beauté fabriqués en Indonésie, de sorte qu'ils ont le potentiel d'être commercialisés dans son pays. Après la signature du contrat commercial ATEI 2008 à Tangerang, Banten, Angelisa a estimé mercredi que les produits indonésiens étaient inclus dans l'un des meilleurs au monde, de sorte qu'ils sont potentiels d'être commercialisés dans le monde, y compris au Mexique. L'admiration d'Angelisa s'est concrétisée par la signature d'un contrat commercial avec PT Biotakara pour l'achat de fossiles d'un montant de $200,000 américains. Pendant ce temps, l'acheteur australien Mohamed Nurdiansyah a dit la même chose. Il a loué la qualité des produits de meubles indonésiens. Selon lui, en tant que principal fournisseur de matières premières en coton, les produits de meubles indonésiens sont très compétitifs par rapport aux produits similaires d'autres pays. L'ambassadeur d'Indonésie à la Fédération de Russie, Muhammad Wahid Supriyadi, évalue que le discours du président du Conseil du Parlement régional de l'Indonésie, Osman Sabta Odang, dans le forum de la session plénière du Conseil suprême du Conseil fédéral de la Fédération de Russie, est un événement rare. Le Conseil de la Fédération de Russie donne rarement l'occasion aux dirigeants des organismes d'État d'autres pays pour prononcer le discours au forum de la session plénière. C'est ce qu'a affirmé Muhammad Wahid Supriyadi, qui était présent lorsque Osman Sabta a prononcé un discours au forum de la session plénière du Conseil de la Fédération de Russie à Moscou mercredi. La session plénière dirigée par le président du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko, qui était accompagnée du vice-président et a assisté à la plupart des 170 membres du Conseil de la Fédération de Russie. Le président du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko, dans son discours a exprimé que l'Indonésie était un partenaire stratégique de la Russie en Asie du Sud-Est. Pendant ce temps, Osman Sabta a souligné les meilleures relations entre le Parlement régional d'Indonésie et le Conseil de la Fédération de Russie deviendrait une nouvelle locomotive pour accélérer et élargir les relations bilatérales entre l'Indonésie et la Russie dans tous les domaines. Selon lui, depuis le 28 décembre 1991, lorsque l'Indonésie a reconnu la Fédération de Russie en tant que pays indépendant et pleinement souverain, les relations bilatérales entre les deux pays s'étaient rapidement développées, notamment depuis la signature de la déclaration sur le cadre des relations amicales et de partenariat entre l'Indonésie et la Russie le 21 avril 2003. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires. le point de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie, sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers auditeurs, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, l'électricité qui atteint toutes les communautés. La satisfaction des besoins en électricité dépend fortement de la disponibilité de l'énergie nécessitée. Par conséquent, la synergie dans l'utilisation des énergies fossiles, charbon, gaz naturel et pétrole avec les énergies renouvelables et les nouvelles énergies est de plus en plus importante pour assurer la croissance du secteur électrique indonésien. Dans le cadre de la Journée nationale de l'électricité, le 27 octobre, Supangkat Iwan Santoso, le président de la Société indonésienne de l'électricité, ou MKI, a déclaré que la durabilité du secteur de l'électricité était l'un des principaux moteurs de l'économie et du développement nationaux. Le taux d'électrification nationale de l'Indonésie n'est actuellement que de 97,15%. Il reste encore environ 3% de taux d'électrification à poursuivre. Cela signifie qu'il y a encore environ 7,5 millions d'Indonésiens qui ne peuvent pas encore bénéficier de l'électricité. Pendant ce temps, résoudre les problèmes nationaux d'électricité, le gouvernement s'efforce d'encourager les prix d'électricité soient de plus en plus abordables pour tout, partout dans le monde. Le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales, Ignatius Jonan, lors de l'ouverture du programme de la 73e Journée nationale d'électricité, ou HLN, mardi le 23 octobre, dans le programme Power Gen Asia 2018, a souligné que la consommation d'électricité devait être distribuée de manière équitable à des prix abordables. Depuis 2014, le gouvernement a fait la conception de l'infrastructure de l'électricité avec le projet de 35 000 MW. En plus de l'équité nationale de l'électricité nationale jusqu'à tous les coins du pays, l'impact le plus important est l'effet de la reprise économique nationale. Bien que vers la fin de 2018, le gouvernement ait décidé de reporter un certain nombre de projets d'électricité de 35 000 MW, mais cela ne signifie pas que le projet était arrêté au niveau national. Selon le ministre Jonan, le report de plusieurs projets initialement réalisés de 2019 à 2021, il y en avait même jusqu'à 2026, en raison de la limitation des importations afin de sauver le taux de change de rupiah par rapport au dollar américain instable. Ce report est une mesure judicieuse pour donner la priorité à des activités plus macroéconomiques afin que la stabilité économique du développement annoncé par le gouvernement puisse être réalisé. Ce que le gouvernement a fait devrait également être soutenu par le secteur privé parce que si le gouvernement ne peut pas encore remplir tout, c'est le rôle du secteur privé qui est de combler des lacunes. L'éducation de l'approvisionnement en électricité garantira la poursuite de la croissance de l'industrie, une meilleure harmonisation entre les zones urbaines et isolées, ou accès aux communications, l'éclairage et le transport et l'accroissement des recettes de l'État. Mais plus important encore, l'électricité est disponible pour atteindre les personnes qui n'ont pas reçu de l'électricité et qui est abordable pour tous. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers auditeurs de la Voix de l'Indonésie, voici l'histoire du jour, le 25 octobre. On commençait le 25 octobre 1945. Les Alliés ont débarqué 6000 hommes de troupes. De la division 49 dirigée par le général de brigade Aubertin Walter Shorten Malabi à Surabaya pour désarmer les troupes japonaises. Les troupes du général Malabi font partie des forces alliées néerlandaises Inde orientale ou AFNI et les forces alliées envoyées à l'Indonésie après la fin de la Seconde Guerre mondiale pour désarmer les troupes japonaises, la libération des prisonniers de guerre japonaises et de restaurer l'Indonésie de nouveau dans les Indes sous domination hollandaise et sous administration de Nika, ou administration civile des Pays-Bas Indes. Malabi a dirigé ses troupes dans Surabaya le 25 octobre 1945, a désarmé les troupes japonaises en conformité avec le contenu de l'accord de Yalta. Cet objectif est atteint avec la résistance des troupes indonésiennes car AFNI les a demandé de transmettre des armes qu'ils avaient pris le parti indonésien à l'avance du Japon. Il y avait un nombre de conflits armés entre les deux forces. L'un d'entre eux a eu lieu le 30 octobre 1945 près de Jembatan Merah au pont de Rouge, Surabaya. Le combat a tué le général Malabi. Sa mort a provoqué la publication de l'ultimatum britannique et explosion de la bataille du 10 novembre 1945. Et on connaît comme le jour de héros pour les Indonésiens. Maintenant, le 25 octobre 1962, Nelson Mandela a été condamné à 5 ans de prison. Nelson Mandela est une figure assez célèbre dans le monde entier. Il est un combattant de la liberté à travers des activités anti-apartheid et il est devenu plus tard président de l'Afrique du Sud. Mandela a lutté fermement contre l'apartheid. En raison des activités anti-apartheid, plusieurs fois il était puni. Le 5 août 1962, Mandela a été arrêté et emprisonné dans le Fort Johannesburg. Plus tard, le 25 octobre 1962, il a été condamné à 5 ans de prison et le 12 juin 1964, lui et un groupe des autres militants ont été condamnés à l'emprisonnement à vie. En février 1990, Nelson Mandela a été libéré de prison. En 1993, ensemble avec le président de Klerk, il a reçu le prix Nobel de la paix. Le dernier, le 25 octobre 2010, le tremblement de terre frappe le Mentawai. Le tremblement de terre aux îles Mentawai a eu lieu à large de la côte de Sumatra, mesurant 7,7 sur l'échelle de Richter. Le tremblement de terre a entraîné le tsunami aussi élevé que 3 à 10 mètres, a causé 77 villages détruits. Le séisme et le tsunami qui a frappé Mentawai ont causé des dommages estimés à 125 milliards de rupiah. Les catastrophes engendrent également 509 morts, 59 disparus et 173 ont été gravement blessés. Le tsunami a également provoqué 15 350 habitants de Mentawai forcés d'évacuer. Chers auditeurs, c'était l'histoire du jour.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers auditeurs de la voix de l'Indonésie, maintenant écoutez mon Indonésia et le titre « La libération d'oiseaux et de graines de poissons » marquait la fête culturelle de 2018. La libération d'environ 50 kg de différents grains de poissons dans le flux de la rivière Lamat-Montilan, la région de Magelang dans le centre de Java et des dizaines d'oiseaux ont marqué l'apogée de la 7e fête culturelle 2018 organisée par la communauté locale samedi. Sutikno, l'un des présidents du 7e comité de la fête culturelle, a expliqué: cette libération des animaux a marqué les efforts des résidents locaux pour continuer à prêter attention à l'importance de la communauté dans le maintien de l'écologie en prêtant attention à l'environnement. Divers grains de poissons qui ont été libérés par les communautés de la région, y compris les chefs de sous-districts locaux, entre autres tortues et poissons tilapia. Des dizaines d'oiseaux ont également été libérés de fleuves près des résidences du village de Pepe du district de Montilan, la région de Magelang, entre autres le pinson, le tourterelle. Concernant la 7e fête culturelle du 7 au 21 octobre, les habitants de la région ont également organisé des activités, entre autres des peintures murales, des expositions, des ateliers de la banque de déchets, des jouets pour les enfants, des expositions traditionnelles, des expositions éducatives et des expositions culinaires. À l'apogée de l'événement, le 20 et 21 octobre 2018, des spectacles artistiques ont été organisés par des groupes artistiques de la communauté locale et plusieurs écoles de Montilan. La fête culturelle dans la région de Magelang a été initiée par le musée Mission Montilan depuis 7 ans. Cette activité annuelle est très importante pour renforcer l'esprit de fraternité dans la communauté de différents communauté de la région. Selon Sutikno, la fête culturelle vise également à rappeler la fraternité de la communauté parmi les êtres humains ainsi que les humains avec l'intégrité de l'environnement, y compris développer un esprit d'éducation écologique, en particulier pour les enfants et les jeunes. La population locale considère la rivière de Kalilama comme un lieu de rencontre pour apprendre la conscience écologique. Cher juridiste auditeur de la Voix de l'Indonésie, c'était mon Indonésia.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel intitulé « Galuh l'icône du tourisme de Ciamis ».
Barang saya yang bisa tahu sejarah bangsanya.
Une grande nation est une nation qui connaît l'histoire. L'Indonésie a une période de grandeur. Nous savons qu'avec nos royaumes, on peut dire que ce n'est pas seulement dans la région de Java, cela peut venir de l'Indonésie. Cela peut être un pouvoir extraordinaire. Parler de tourisme est devenu un pilier. C'était l'expression de Totot Marwoto, le chef du bureau de tourisme de la région de Ciamis, Java Occidentale, sur l'importance de l'histoire qui peut être développée en tourisme. La région de Tiamis est l'une des zones de l'ouest de Java qui développe sérieusement le tourisme historique et culturel. Basée sur son emplacement géographique, la majeure partie de la région de Tiamis, sous la forme de montagnes et de plateaux, sauf à la frontière du sud de Java centrale et dans certaines zones côtières de la côte du sud, de l'est de Tiamis, sous la forme de la baie de Parigi et de la baie de Pananjung, et ce qui est la célébrée est la baie de Pangandaran. De l'unicité de cette zone géographique de la région de Tiamis, il existe la légende historique des ancêtres de l'ancien royaume de Java qui avait autrefois Glorio. L'un d'entre eux est le royaume Galou qui se trouvait autrefois dans la région de Tiamis. Ceci est attesté par la présence d'un petilasan appelé petilasan Sangyang Boros Ngora, le précurseur du fondateur du royaume de Galou. L'histoire du royaume Galou existe dans le manuscrit en langue sundanaise intitulé Carita Parahyangan, écrit au début du XVIe siècle. Selon le manuscrit, le royaume de Galou était un royaume de Sundanese sur l'île de Java. Son territoire était situé entre le fleuve Citarum à l'ouest et le fleuve Tisrayu et aussi Tipamali à l'est. Ce royaume est le successeur du royaume de Kendan. Il est le précurseur du royaume à Java et à Bali.
Kalau kita bicara budaya di Ciamis, ini adalah cikal bakalnya budaya. Karena kita
si nous parlons de culture à Ciamis, c'est l'origine de la culture parce que le roi Galou est le précurseur des rois de Java. Concernant ce problème, nous allons essayer visiter Ciamis afin que les personnes qui viennent à Ciamis avec le patrimoine Galou. Tiamis est riche en histoire et culture. Cela a été dit par l'ancien de Kasepuhan, le maître coutumier de la région de Tiamis. Il s'appelle Pangeran Haji Dede Sadeli Surya Binangun Kasepuhan Guru Ageng Adat, plus connu sous le nom de Abah Dede. Selon lui, Tiamis a le pouvoir de racines historiques, de sorte qu'il peut être développé dans le tourisme traditionnel.
Ciamis itu sendiri punya kekuatan pokok. Daerah
Ciamis est une région indigène et la culture est toujours originale, habitée et développée comme une zone touristique traditionnelle. Ici, le plus puissant est à une histoire. Ciamis a la force fondamentale. Parce que notre région sera développée comme une zone touristique traditionnelle, développer le tourisme local tout en développant l'économie populaire. Voici les ancêtres, les Javanais et les Balinais. Totot Marwoto, le chef de l'office de tourisme de la région de Tiamis, Java occidentale, a déclaré que le patrimoine culturel sous la forme de fêtes traditionnelles, d'attractions culturelles et de sites du royaume de Galou pouvait être observé à ce jour. Le reste du royaume Galou se trouve à Kawali, Tiamis, parce que la communauté Tiamis encore les préservait.
Kita punya heritage-nya, kemudian kita punya Galuh Nagari-nya ini dengan pesta adat.
Nous avons Galuh Nagari avec des fêtes traditionnelles. Nous avons nyangku, jamasan, merauh, misaligin, mengikis, nyuguh, pamerekan. C'est très compliqué. Donc si nous parlons les cultures de Ciamis, en fait, elles sont encore préservées. Thank you. La région de Tiamis offre également une visite intéressante. La tournée de pèlerinage, et voici Totot Marwoto, Adi.
Wisata yang paling nampak sekali Pak kita ini, pansa pasarnya itu adalah wisata ziarah.
Sapar de Marche est un pèlerinage. Dans un an, environ 400 000 touristes domestiques ont venu à Tiamis, un nombre très fantastique. Mais maintenant, il y a des touristes de Brunei Darussalam, de la Malaisie et de la Thaïlande. Nous avons déjà le tourisme halal et le tourisme culturel. L'existence d'un village traditionnel à Tiamis devient une attraction particulière pour les touristes qui veulent connaître la sagesse locale de la population qui est encore bien entretenue. Voici l'explication du chef de l'Office de tourisme de Tiamis, Java Occidental, M. Totot Marwoto.
Salah satunya kita punya Kampung Kuta dan ini kebetulan nih secara langsung aja bukan laporan.
L'un d'entre eux est Kampung Kuta. Selon les rapports de marketing de la province de Java Occidental, les Européens aiment les villages autochtones et les destinations coutumières. Ils viennent avec leurs équipes d'évaluation car ces destinations touristiques sont uniques, bien conservées. Les habitudes de la société peuvent être un reflet de notre génération. Nous respectons les gens, l'hospitalité, la forme des caractéristiques et la sagesse locale. La sagesse locale de la communauté de Tiamis, l'héritage du royaume Galuh, peut également être vu à travers le gong de paix.
Di sini termasuk gong perdamaian, ya tidak seluruh kabupaten kota, tidak seluruh provinsi yang memiliki gong perdamaian.
Ici il y a un gong de la paix. Il n'est pas toutes les provinces qui ont dit gong de la paix. Le gong de la paix a une philosophie. Le roi Galuh aime la paix. Car avant la guerre était pacifique. Il n'était pas excessif de placer le gong de la paix à Karang Kamulian, l'histoire du palais Galuh. En mobilisant divers potentiels tels que la culture, les fêtes coutumières, l'histoire, la nature et les pèlerinages, la région de Tiamis s'améliore pour stimuler le retard du secteur du tourisme. Abah Dede, l'ancien de Kasepuhan, le maître coutumier de la région de Tiamis, a rappelé ce qui est également important est de préparer les autres infrastructures de soutien pour développer ce secteur du tourisme.
Kita kembangkan ya, itu adalah sarana-sarana penunjang. Sehingga si wisatawan itu sendiri.
Nous devons développer des installations de soutien afin que les touristes puissent rester chez nous. Donc, selon leurs besoins, ils veulent la sécurité, comment le manger, leur vie quotidienne. Les touristes qui viennent ici doivent obtenir des garanties de sécurité. Concernant la coopération pour soutenir les activités dans le secteur du tourisme, la région de Tiamis souhaite le rôle du gouvernement, des secteurs publics et privés puisse réaliser cette question.
Ini bicara pariwisata complicated sehingga perlu ada penanganan secara networking ya, multisektoral.
Le tourisme doit être géré par un réseau multisectoriel à tous les niveaux. Le plus important, si la communauté a un sentiment d'appartenance au tourisme, le tourisme va progresser. Le tourisme qui est développé par Tiamis est lié à l'image existante car en principe le tourisme vante des images. Si l'image est bonne, cela aura un impact positif sur la communauté. Le tourisme à Tiamis avec Galo pour l'icône continue de progresser dans le développement du tourisme historique à l'avenir. C'était le magazine culturel avec pour thème Galo, l'icône du tourisme de Tiamis, occidentaux de Java, et nous reviendrons avec un autre thème. Merci à tous et à bientôt.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir à tous, rencontrons-nous de nouveau dans le magazine musical qui présente les musiques pop, nostalgiques et traditionnelles de l'Indonésie. Pour l'édition d'aujourd'hui, nous vous présentons les chansons nostalgiques chantées par les bandes de garçons qui sont célèbres en Indonésie aux années 1990. Pour ouvrir notre rencontre, voici la chanson intitulée Tataplah de Cool Colors. Bonne écoute.
Jangan pernah pada dekatlah diri.
Seritak setelah Samsung The Cool Colors ang titule tataplah. Les membres de Cool Colors sont des modèles masculins se composant de Tengkurian, Ari Sihasale et Surya Saputra. Grâce à la chanson Tataplah, Cool Colors a commencé à être connu du public. La chanson, publiée en 1996, raconte l'histoire d'un homme qui ne veut plus être laissé par son amant. Il veut que son amoureux regarde ses yeux parce qu'il croit que ses yeux reflètent la sincérité de l'amour qui ne s'éteint jamais. Bon, serviteur, écoutons maintenant l'autre chanson intitulée « Katakanlah » du groupe musical de garçons Cowboy, qui est célébré aux années 1990. Bonne écoute.
Katakanlah, oh kasih,
Serutak setelah Sangsong de groupe musical de garçon cowboy. Depuis sa création en 1991, le nom de cowboy est connu depuis la sortie du premier single intitulé Katakanlah. Cette chanson raconte un homme qui veut que son amant lui dise quelle est son inquiétude. Cependant, cet homme assure à son amoureux qu'il ne devrait pas y avoir d'anxiété, car il a de l'amour sincère pour elle. Comme son nom indique, cowboy ou l'abréviation de coverboy, tous les membres sont des modèles masculins de couverture de magazines pour adolescents. Ils sont Ali Mustafa, Gilbert Patiruhu, Ferry et Poncho Buono. Bon serviteur, voici donc la bande de garçons M.E. avec sa chanson intitulée C'est l'amour. Bonne écoute.
Cinta pada jumpa pertama.
Saya Rita, vous écoutez la chanson de la bande de garçons M.E. M.E. est une abréviation de la langue sundanaise Mbung Eleh, qui signifie ne pas être en reste. Cette bande est formée en 1997, dont les membres sont Denis Sabah, Diden Fitra Sakti, Iravan Mirza, Ferry Iskandar et Widi Cipta Utomo. M.E. atteint le sommet de sa gloire à travers la chanson intitulée Inikah Cinta, qui est sorti en 1998. Cette chanson décrit un homme qui ressent la beauté de tomber amoureux. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici la dernière chanson intitulée Bintang Bulan Matahariku de la bande de garçons Wibi. Bonne écoute et à bientôt.
Oh bintang, oh bulan, matahariku, terangilah cintaku. Abadi selalu. Menatap si kasih, akankah cinta tak akan pernah berakhir? Hasratku selalu berharap dirimu kasih untuk selamanya. Walau hatiku selalu yakin akan
merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était des chansons indonésiennes, ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook, The Voice of Indonesia, et Twitter, @VOIINDONESIA, ou bien Instagram, voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, informing, connecting, dignifying.